France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT's in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Notre invité ce soir est l'un des plus grands auteurs américains de sa génération. Ses essais sont lus et étudiés. Il revient avec un livre qui nous éloigne des États-Unis, mais pas des thèmes de prédilection de Tennessee Coates, que nous sommes heureux d'avoir avec nous. Louise Baudet, dans Le Monde à l'endroit, regarde dans quelle Europe arrive la COP30 qui s'ouvre cette semaine. Le reportage est une histoire de paella et de rizière sauvée des inondations. Nous sommes dans la région de Valence.
Reconstruire les infrastructures, reconstruire les parcelles, les canaux d'irrigation. Cette circonstance tragique a été très dure, mais elle appartient désormais au passé.
Un reportage de Mathieu de Taillac que vous découvrirez autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé le Mali. Est-il sur le point de tomber aux mains des djihadistes? Et puis Caroline Gillet, Caroline au Pays des 27, raconte le quotidien d'un négociateur de la Commission sur les questions numériques. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. On y va. Bonsoir Tennessee Coates.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous étonnez et même peut-être vous nous désarçonnez dans ce nouveau livre qui a fait déjà du bruit aux États-Unis, qui est traduit aujourd'hui en France. Ça s'appelle Le Message, publié aux éditions Autrement. Il nous étonne parce que dans vos précédents ouvrages, vous restiez aux États-Unis. Cette fois, on sort beaucoup pour explorer les thèmes qui vous sont chers. Vous nous parlez toujours d'héritage, d'oppression, de l'histoire noire américaine. Mais pour ça, vous nous emmenez avec vous dans trois voyages. Au Sénégal, d'abord sur l'île de Gorée, d'où partaient les esclaves, en Caroline du Sud, là pour le coup aux États-Unis, dans une ville très conservatrice qui nie cet héritage et qui interdit surtout vos livres, et puis en Israël et surtout en Palestine, c'est la plus grosse partie du livre où l'oppression des Palestiniens vous saute au visage. Expliquez-nous d'abord pourquoi ce besoin de sortir de l'expérience américaine pour mieux la raconter au fond.
Je ne sais pas si j'ai vraiment consciemment réfléchi au fait que je devais sortir des États-Unis. C'est simplement quelque chose qui s'est passé dans le cadre de ma carrière, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement dans le déroulement de ma vie. J'ai commencé à voyager à l'international très tard dans ma vie. La France, en fait, c'est le premier pays où je me suis rendu en tant qu'adulte et j'avais 38 ans à l'époque. Donc j'ai commencé à voyager très tard, je pense. Mais ça m'a semblé être une évolution naturelle de mon expérience, de ma pensée politique. C'est ma première tentative dans ce domaine.
Est-ce que vous diriez, avec le recul aujourd'hui, qu'au fond, vous avez fait trois formes de pèlerinage ? Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête en partant ? Est-ce que vous le réalisez en rentrant ?
Je voulais écrire un livre sur l'art et la politique, c'était l'intention. Et il me semble que je ne suis pas le genre d'écrivain qui peut simplement rester, se confiner à un domaine. Je dois vraiment voir les choses par moi-même, c'était très important pour moi. Et je pense que chaque livre devrait être différent, il faut qu'on voit la progression. Et donc c'était naturel pour moi d'essayer d'entreprendre un voyage, d'essayer de voir des choses que je n'avais pas encore vues, comme la Caroline du Nord, qui est ce que je connaissais jusqu'ici.
Alors on va y aller un après l'autre, juste un mot quand même encore. Je parlais de trois pèlerinages, Tennessee Coates, peut-être qu'il y en a un quatrième, et au fond c'est l'écriture. Vous vous adressez à l'un de vos étudiants d'Howard University, c'est celui-là, ça pourrait être n'importe lequel. Vous dites même que l'écriture doit hanter le lecteur. Vous dites qu'elle a une mission émancipatrice, vous dites même qu'elle sauvera le monde, Tennessee Coates. Vous pensez vraiment qu'on sauve le monde avec les livres et tant mieux?
Une des choses que je souligne dans le livre, j'affirme que l'écriture, en fait, a joué un rôle pour la destruction du monde. Derrière ce message, je veux dire que souvent, dans le processus d'oppression, ça ne suffit pas simplement d'oppresser, il faut construire une justification, une raison d'oppresser. Et malheureusement, les livres ont vraiment joué un rôle majeur en ce sens. Pas seulement les livres, mais aussi les films, la culture. Et je cite de nombreux exemples.
My basic operating premise, though, is that
mais pour moi, je pars du principe qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on ne connaît pas, sur ce qu'on n'a pas vu. Et c'est là que l'écriture, le journalisme joue son rôle. C'est un rôle de clarification.
Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on les interdit, non, Tanefi Coates, précisément parce qu'ils ont cette fonction-là, parce qu'ils sont la compréhension de l'oppression, la prise de conscience. Et en vous lisant, c'est un peu ce que j'ai compris, moi, dans votre voyage en Caroline du Sud. Si on vous interdit, c'est parce que vous avez la compréhension de l'oppression.
Oui, c'est ce que je raconte dans mon livre. Les systèmes contre lesquels nous luttons fonctionnent mieux de manière occulte dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais aussi puissants que lorsque ceux qu'ils oppressent n'arrivent pas à les percevoir, ne voient pas ce qu'il se passe. Et donc, quand on parle de l'interdiction de livres aux États-Unis, on parle de l'intention d'empêcher les étudiants d'avoir d'autres points de vue, de voir d'autres possibilités. Et ayant vu la véritable nature de la politique et du gouvernement, je dirais que c'est délibéré, c'est le but.
Ce que vous dites surtout, c'est que j'ai trouvé ça fascinant, c'est que au fond, le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est pas le bouquin, le vôtre, qu'on interdit. Ce sont les écrivains à venir. Ça veut dire c'est restreindre la réflexion, c'est restreindre l'imagination, c'est restreindre tout ça pour l'après. Le plus grave, au fond, Tanefi Coates, c'est pas votre livre, c'est celui qui ne viendra pas après le vôtre.
Is not what happens to your book, but what will happen to the books that won't be written.
Oui, tout à fait. Exactly. That's exactly it.
I mean, c'est tout à fait ça.
The feeling is, I think a lot of times.
Je pense que souvent.
We as writers,
en tant qu'écrivain,
we take book banning as a personal offense.
Nous prenons très à cœur, d'un point de vue personnel, l'interdiction d'un livre. On parle de la manière dont ça nous affecte nous. Mais la réalité, c'est que l'interdiction d'un livre, en fait, nous aide à chaque fois qu'un livre est interdit. Quelque part, ça génère une actualité. Et moi, je vends plus de livres. Donc, en fait, c'est bon pour l'auteur. Paradoxalement, c'est en réalité mauvais pour ceux qui n'y ont pas accès. Et les gens qui interdisent le livre le savent. L'objectif n'est pas d'interdire le livre, mais d'empêcher la création, l'émergence d'auteurs qui vous sont semblables.
Je voudrais, Tanefi Coates, qu'on aille quand même dans ces lieux que vous avez visités. La plus grosse partie de votre livre, c'est Israël-Palestine. C'était votre premier voyage. Votre passage à Hébron, notamment, est-ce que vous y avez vu ? Vous a littéralement claqué à la figure. Vous avez même cette phrase assez terrible. Vous dites « J'aimerais mieux entendre un plaidoyer pour le cannibalisme qu'une justification de ce que j'ai vu à Hébron. » On a l'impression que l'histoire vous a explosé au visage dans ce voyage-là.
On parlait de la clarification. Je suis un journaliste de formation, c'est là que j'ai commencé. Et parmi les choses très difficiles que j'ai vues là-bas, j'ai constaté surtout que le journalisme, tout particulièrement aux États-Unis, s'était trahi parce que ce que j'ai vu là-bas ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais lu et ce que j'avais entendu mes collègues en dire, si je veux être tout à fait honnête. La manière dont les choses m'ont été présentées, c'est comme s'il y avait deux côtés avec une légitimité égale. Mais dans mon être, dans mon histoire, dans ce que je représente et ce que je suis, il n'y a pas de manière de justifier, de défendre un système où il y a deux niveaux de citoyenneté. Il y a des citoyens et une sous-classe. Ça, c'est indéfendable. Et d'un point de vue pratique, les journalistes n'ont pas fait le travail nécessaire pour clarifier la situation.
Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous voyez en Palestine, que vous comparez évidemment avec ce que les Afro-Américains ont vécu, vous y voyez aussi un équivalent des lois de Jim Crow sur la ségrégation, mais ce que vous dites surtout, c'est que vous comprenez que vous vous êtes trompé. Votre première analyse a analysé ce pays au service, au fond, de votre propre histoire, et c'est ce que vous dites dans votre livre. Je me suis planté, en fait. Je n'avais pas la bonne lecture. Je suis venu là aussi pour réparer, finalement.
Yes, that's exactly it.
C'est exactement cela. Et en réalité, l'erreur était une erreur professionnelle, une erreur de journalisme. On écrit sur un lieu, je voulais écrire sur un lieu très très important sans y avoir jamais été, sans avoir fait de travail de journaliste. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Palestiniens avec qui j'avais des conversations régulières. Et c'est toujours une erreur. C'est toujours un très mauvais point de départ lorsqu'on écrit.
Vous écrivez sur la relation entre Israéliens et Palestiniens. Vous dites « être opprimé ne sauve pas, avoir été une victime n'ouvre pas les yeux ». Je me demandais si c'était valable aussi pour vous aussi, également, en fait, et pour le récit de l'histoire américaine, de l'histoire noire américaine.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus effrayé, que j'ai trouvé le plus effrayant. Je voyais la souffrance de ces victimes de l'apartheid. Je revoyais cela dans les Palestiniens et je comprenais aussi qu'une histoire d'oppression qui date depuis des années et des années, la pire des oppressions, je comprenais la manière dont on peut commencer à imaginer que ça peut tout justifier pour votre survie, pour la survie de votre peuple. Je le ressens, mais je le rejette également. Je ne pense pas que c'est une erreur sioniste, je ne pense pas que c'est une erreur israélienne, et je ne pense pas que c'est une erreur juive non plus, c'est une erreur humaine. Quiconque peut tomber dans cette erreur, moi-même également, mon peuple également, et la raison pour laquelle j'ai écrit ce chapitre, c'est pour les sauver de cette possibilité, de cette éventualité.
Je me suis demandé en vous lisant Ta-Nehisi Coates, si vous aviez été abîmé par ce livre que vous avez écrit. Vous racontez à la fois la colère et les interrogations et donc les erreurs lorsque vous êtes à Hébron ou à Jérusalem. Vous êtes malheureux au Sénégal plusieurs fois lorsque vous allez vers l'île de Gorée parce que vous avez le sentiment d'être suivi par une armée de fantômes. Est-ce que l'écriture de ce livre vous a abîmé ?
C'est une très bonne question.
It always hurts.
Ça fait toujours mal.
Yes, it always hurts. Yes, it did hurt me.
Oui, ce livre m'a fait mal. There's a point in the book where I talk about. Il y a un moment dans le livre où je parle. Books as children. Je parle de livres comme d'enfants. Chacun de mes livres est comme l'un de mes enfants. I've never given birth. Je n'ai jamais donné naissance à un enfant. Mais c'est, je pense, l'expérience qui s'en rapproche le plus.
Sans péridurale, donc visiblement l'écriture. Ta-Nehisi Coates, j'ai une toute dernière question pour vous. L'état de la politique américaine aujourd'hui répond en partie à cette question, alors que Trump est en train de finir sa première année. Est-ce que, après ce qui s'est passé en 2020, vous avez tellement écrit dessus, après George Floyd, après ce qui a été écrit, après tout ce que l'Amérique a traversé, il n'y a aucun changement politique aujourd'hui, bien au contraire. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander si tout cela est vain ? Y compris d'ailleurs ce que vous écrivez visiblement douloureusement.
Non.
Parce que, comme je le dis dans le livre, je me considère comme faisant partie d'une tradition, d'un courant, d'une lutte qui commence sans doute dès que le premier homme a eu un besoin de liberté. Alors avec moi, ça commence avec la découverte de ce nouveau monde, les tentatives pour détruire la population indigène qui y habite et le fait de réduire en esclavage une autre population pour exploiter cette nouvelle terre. C'est une lutte de longue haleine et on ne peut pas la juger à l'échelle d'une vie humaine. 4 années, ce n'est rien.
Espérons-le. Ta-Nehisi Coates, je vous remercie mille fois. Pour les gens qui nous écoutent, ils en auront la surprise. On a aussi l'explication de l'énigme de votre prénom. Je laisse le suspense pour nos auditeurs et vos lecteurs parce que c'est très joli. Ça s'appelle Le Message. C'est publié chez Autrement. C'est Karine Lalechère qui traduit votre livre et Victor Acher-Guéry assurait la traduction ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci à vous.
La suite, c'est le monde à l'endroit et c'est vous, Louise Baudin.
Sale temps pour le climat, les Européens vont-ils s'entendre sur un plus petit dénominateur commun ?
Et c'est juste après ça. Why they lie to the people? Why the world is so evil? Why can't you just cool? Just
crosses, stressing all of the time. I can't just cool, just let me cool.
Just Cool, le chanteur nigérian installé à Londres et dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18 juin.
Louise, à quelques jours de l'ouverture de la COP30 au Brésil, les Européens condamnés à s'entendre sur leurs objectifs climatiques, et vous nous expliquez pourquoi c'est devenu plutôt difficile.
En Europe, il faut être 27 pour danser le tango. Bon mot signé Wopke Hoekstra, le commissaire européen en charge du climat. Sa patronne Ursula von der Leyen rejoint les dirigeants mondiaux après-demain à Belém et il n'est pas question qu'elle arrive les mains vides. Il lui faut un mandat des 27. Question de crédibilité pour une Europe qui veut rester leader en matière de climat. Le problème, c'est que les Européens sont divisés, je vous le donne en mille, oui, je sais, c'est pas très original, hein, divisés, cette fois sur les objectifs de réduction des émissions carbone. Faut-il maintenir ces objectifs? Les revoir à la baisse, les tractations sont difficiles, elles doivent atterrir ce soir, mais aux dernières nouvelles, rien n'est encore réglé.
Alors l'Europe vise la neutralité carbone en 2050, cet objectif-là n'est pour l'instant pas remis en cause, mais c'est la façon d'y arriver, Louise, qui fait débat.
Oui, ces fameux objectifs intermédiaires à horizon 2035 et 2040. Sommes-nous capables d'ici 15 ans de limiter nos émissions de gaz à effet de serre à 10% de ce qu'elles étaient en 1990? Non, répondent les pays dont les économies sont très carbonées, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou l'Italie, qui veulent sauvegarder leurs industries. Industries déjà confrontées aux coûts élevés de l'énergie, aux importations chinoises et aux droits de douane américains. En face, des pays comme l'Espagne, les Pays-Bas ou la Suède ne veulent pas reculer. Au nom de l'urgence climatique et de ses manifestations extrêmes, inondations, sécheresses, mais aussi parce qu'il faut rattraper la Chine en matière de technologie verte. Et comme il faudra bien s'entendre à la fin, eh bien des marges de négociation sont apparues, comme ces crédits carbone contestés par les ONG, qui permettent d'atteindre les fameux objectifs en finançant du reboisement ou des installations solaires à l'étranger, ou encore ce frein d'urgence défendu par la France, ou comment revoir l'objectif si, par exemple, exemple, les forêts européennes n'absorberaient pas suffisamment de CO2. L'accord espéré ce soir se joue sur ces flexibilités.
Louise, on n'a pas la mémoire courte. Le pacte vert, c'était la grande affaire de l'Europe. Il y a 6 ans seulement, les priorités ont donc changé.
Oui, la menace russe, l'hégémonie économique chinoise, les droits de douane et l'agressivité américaine changent la donne. Et si l'Europe reste parmi les plus ambitieuses en matière de réduction des émissions carbone, l'urgence climatique s'efface derrière les enjeux de défense et de compétitivité. La pression des industriels du secteur automobile notamment est majeure, pas seulement des Allemands et des Italiens d'ailleurs. 1 millier de professionnels, constructeurs, équipementiers se sont opportunément réunis aujourd'hui à Paris pour réclamer un report de l'interdiction de la vente de véhicules thermiques, interdiction fixée à 2035. Une borne dénoncée comme dogmatique et dangereuse car les clients n'achètent pas de voitures électriques jugées trop chères.
Le grand bouleversement, il est aussi politique.
Oui, poussée conservatrice et nationaliste en Europe, repli de l'écologie dénoncée comme punitive et backlash attisé par les vents trumpistes venus d'outre-Atlantique. Résultat, le détricotage des normes environnementales du pacte vert, comme la loi sur la déforestation, de nouveau reportée. Coup de tronçonneuse dénoncé par les ONG. L'air du temps a changé en somme et la diplomatie climatique européenne entend s'adapter, plus transactionnelle et pro-business, moins normative et moins éthique.
Louise Baudet, merci beaucoup. Louise, on vous retrouve demain. Le reportage. Nous sommes en Espagne dans le reportage Un jour dans le monde ce soir dans la région de Valence, un an après les inondations qui ont fait 237 morts, souvenez-vous, des dégâts que la région n'a pas fini de réparer. Plus précisément, nous sommes dans les zones humides de la Albufera. C'est là que je vous emmène, un parc naturel au sud de Valence, où s'est installée il y a 1200 ans, figurez-vous, la culture du riz. Et pour la petite histoire, eh bien, c'est là aussi qu'est né, quelques siècles plus tard, devinez quoi, le plat national, la paella. Après les inondations, il a fallu faire renaître les 15 000 hectares de rizières et c'est à ce voyage-là que je vous invite. La récolte, la préparation du riz et donc la paella. Le reste, c'est Mathieu de Taillac qui goûte et qui raconte.
Direction la lagune, le cœur du parc naturel de l'Albufera. On embarque le champagne, les flûtes et les visiteurs dans un albuferenc, la barque traditionnelle à fond plat. En bande sonore de la musique régionale et un canon à pétard pour éloigner les canards un peu trop friands de la production locale. Le décor est idyllique pour cette journée annuelle de présentation des producteurs, sauf que cette édition est évidemment marquée par les inondations de l'an dernier. Santos Ruiz, gérant de l'AOC, Riz de Valence.
La première chose, c'était de retirer les objets les plus volumineux, les voitures, les bacs à ordures, les meubles. Ensuite, reconstruire les infrastructures, reconstruire les parcelles, les canaux d'irrigation. Cette circonstance tragique a été très dure, mais elle appartient désormais au passé.
Puis cruelle ironie, un peu moins d'un an après le désastre, une alerte orage retentit sur tous les téléphones des invités. La visite du lendemain se fera donc en intérieur et suivra le chemin du riz, des champs au moulin, comme celui transformé en musée que nous fait visiter Santos Ruiz dans la ville de Valence pour expliquer les étapes de la préparation du grain.
Le riz passe par là. Cette première machine dépose ici l'enveloppe externe. Vous voyez que le grain n'a plus son enveloppe. C'est du riz complet. Qu'est-ce que fait la machine? Elle lisse le grain. Vous voyez que le riz est déjà un peu plus blanc.
Et puis du moulin à l'assiette, du riz de Valence AOC à la paella valenciana, on rentre dans la cuisine du restaurant The Terminal Hub dans le port de Valence et on interrompt Juan Torre, le chef, au moment décisif.
On est juste en train d'ajouter le riz. On va le laisser bouillir 5 minutes à feu vif. Ensuite, on le baissera pour qu'il fasse le socarrat, la couche de riz croustillant typique. On ajoutera un peu de romarin, du romarin sauvage bien frais. On laissera bouillir encore 5 minutes et ensuite on retire. C'est la paella valenciana traditionnelle au poulet et au lapin. Il y a du haricot vert ferradura, des haricots de lima et un peu d'artichaut. Le tout est cuit sur le sofrito, la sauce avec le poulet, le lapin, des tomates de Valence et du paprika.
Gare aux aventuriers qui voudraient y mettre autre chose, même les chefs les plus créatifs sont très prudents quand ils cuisinent ou parlent paella. Quique da Costa, chef 3 étoiles Michelin, distingue le plat paella, très codifié, de l'ustensile dans lequel on fait la paella, cette grande poêle sans manche mais à deux poignées, qu'on appelle aussi paella.
Sans être des hooligans, il faut qu'on soit un peu perfectionniste. Quand je vais sur la place de la mairie, je vois des restaurants qui incluent des ingrédients qui ne font pas partie de la recette, de la paella. Autrefois, les mères de famille préparaient leur riz avec ce qu'il y avait de disponible au marché. Mais il faut distinguer deux choses, la recette traditionnelle de la paella et le riz cuisiné dans une paella.
Conclusion, si on vous sert, en Espagne ou ailleurs, un riz couleur jaune safran accompagné de chorizo, de petits pois, de poissons ou de fruits de mer, régalez-vous, mais ne l'appelez surtout pas paella. Quique da Costa appelle ça du riz dans une paella. Les Valenciens, eux, utilisent souvent, avec un brin de condescendance, une autre expression, arroz con cosas, du riz avec des choses.
J'adore le riz avec les choses, Mathieu de Taillac. Merci beaucoup, bon appétit, Mathieu, et à très vite. La suite, maintenant qu'on a l'eau à la bouche, c'est l'actualité internationale cachée sous les radars. Et Guillaume Oda.
200 ans d'amitié diplomatique, le Pérou et le Mexique, c'est fini, et c'est Lima qui le dit.
Et puis comme tous les mardis, Caroline Gillet, au pays des 27.
Oui, on parle avec un de ceux qui négocient les dossiers IA au G7. Pas facile face aux Américains.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète fait une petite escale en 1969 avec Nina Simone. To Love Somebody, reprise évidemment des Bee Gees, à tout de suite.
Quando il sol sorge su dal mar e splende su di noi ed io ti stringo a me, così ti amo, sei con me. Sente il tuo respiro, confuso con il mio, e credo di sognare, così ti amo, così ti amo, sai che io vivo qui con te, sai che io vivo qui con te, ed ogni giorno guarderemo il
Simone, To Love Somebody sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Et qu'est-ce qu'on trouve sous les radars? Eh bien, faut demander à Guillaume Oda.
The country's foreign minister who attended are from Jordan, Pakistan, Indonesia, Qatar, Saudi Arabia.
Guillaume, Gaza, J+25, après le cessez-le-feu, donc ô combien fragile, et dans les tiroirs, une force internationale. Mais qui va oser y aller?
Oui, ou en d'autres mots, qui osera faire le coup de feu à Gaza s'il le faut contre le Hamas? C'est même d'ailleurs la seule question. Comment réagiraient ces soldats internationaux en cas de confrontation parmi les militaires et les diplomates? L'hypothèse est sur toutes les lèvres, l'organisation terroriste déposera les armes si et seulement si elle craint une réaction forte en face. Dans le cas contraire, ce serait le chaos. De ce constat découle bien des interrogations. Qui pour commander? Qui pour épauler, armer, entraîner cette force de stabilisation? Et sous quel mandat agira-t-elle? Une préliste est établie. Jordanie, Arabie Saoudite, Indonésie, Pakistan ou d'autres, on l'a entendu à l'instant. 8 pays musulmans, arabes et non-arabes, réunis depuis hier à Istanbul. Ils sont entrés dans le dur et délivrent une première annonce. Une résolution de l'ONU pourrait être prête d'ici à 2 semaines. C'est un premier pas, mais Israël pose ses conditions. Pas de Turquie, pas de Qatar au sein de cette force, deux nations jugées trop proches du Hamas.
Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, affilié à Al-Qaïda, intensifie sa pression sur les communautés du centre.
L'acronyme de ce groupe djihadiste, Guillaume, qui fait régner la terreur au Mali, c'est JNIM, comment on prononce ?
Le JNIM.
Le JNIM, qui entend, tôt ou tard, prendre Bamako.
Oui, enfin peut-être de s'emparer du pouvoir. On en a parlé ici même il y a 15 jours. Depuis plusieurs semaines, le Mali est secoué par de violentes attaques de camions-citernes. L'objectif du JNIM, qui contrôle tous les axes de ce pays enclavé, et d'organiser une pénurie de carburant, d'assécher la capitale. La junte militaire aux affaires est débordée, ses alliés russes effacés, tandis que dans les régions hors de Bamako, l'organisation djihadiste achète la paix des communautés en imposant la charia et la rupture avec les forces de sécurité. Selon les observateurs indépendants sur place, ils sont rares parce que le climat est extrêmement volatile. Cette organisation proche d'Al-Qaïda chercherait à isoler les populations, à les empêcher de poursuivre leurs activités et d'attendre patiemment que le fruit tombe de l'arbre, si je puis dire. Dans la région, certains appellent cela le djihad économique. Pour le Mali, c'est catastrophique.
El gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México.
Il a tout dit, le ministre des Affaires étrangères du Pérou, son pays rompt officiellement ses relations avec le Mexique.
Et on est très très susceptible à Lima, et ce qui vient de se dérouler à Avenida Jorge Basadre, au siège de l'ambassade du Mexique au Pérou, est considéré par les autorités comme un casus belli. L'objet du courroux, l'asile accordé à une certaine Betsy Chafes, ex-première ministre péruvienne. Elle est accusée d'avoir participé à une tentative de coup d'État en 2022. À l'époque, l'armée n'avait pas suivi Pedro Castillo. L'affaire avait échoué, le Parlement l'avait destituée et elle, Betsy Chavez, a toujours démenti avoir été informée des projets séditieux de l'ancien président. Avant d'être jugée sous intense pression, craignant un procès évidemment tronqué, elle a risqué 25 ans de prison. Elle a fini par se réfugier sous drapeau mexicain avec la bénédiction de sa présidente Claudia Sheinbaum. Le Pérou parle d'ingérence, le Mexique répond droit international. Jamais les relations entre les deux pays n'avaient été aussi orageuses en un peu plus de deux siècles, 202 ans précisément d'amitié, de coopération interétatique, pardonnez-moi.
Guillaume Audin, merci Guillaume. On se retrouve demain, le mardi, on regarde derrière les portes de l'Europe et on regarde aussi Caroline Gillet au pays des 27.
France Inter, le 18-20.
Les grands sommets, Caroline, G7 ou G20, c'est des tapis rouges, des chefs d'État qui essaient de se mettre d'accord, mais aussi des personnes comme Fabien Delcros, qui négocie en amont pendant des mois.
Oui, et dans son cas, au nom de l'UE, derrière leurs ordinateurs, en télétravail. Mais il a accepté qu'on se retrouve dans les tout nouveaux bureaux bruxellois de la DG Connect, le département de la commission chargé du numérique. Les bureaux du 51 rue de la Loi sont plutôt sympas. Je leur donne 8 sur 10. Une cafette, une terrasse, des fauteuils colorés.
Et un piano.
Un piano.
Vous jouez du piano ?
Non.
Vous jouez du fauteuil de couleur ?
Je joue du fauteuil de couleur, ouais.
On trouve une pièce de réunion vide, on s'installe tout au bout en mode présidence.
Alors moi, quand j'étais petit, je voulais devenir homme politique et si possible président de la République.
Puis Fabien Delcros est en fait devenu fonctionnaire européen. Il dit qu'il n'est pas là pour le salaire, avec ses compétences, il pourrait trouver mieux dans le privé. Il est là pour une mission, pour l'intérêt commun, avec parfois des prises de risques. Comme cette fois, il y a un peu plus de 2 ans.
Le commissaire Breton termine son mandat. Il termine la négociation de ce qu'on appelle le AI Act, donc la législation sur l'intelligence artificielle. C'est un texte très important qui a été un des textes les plus lobbyés, donc les plus influencés par les intérêts privés. Et en parallèle, moi j'étais le représentant de l'Union européenne au G7.
J'ai demandé à Laure Grand-Besançon, avec qui je partage mon bureau à France Inter, si c'était nécessaire de refaire un point sur ce qu'est le G7. Elle a dit oui, alors voilà. Le groupe des 7 a été créé en réaction au premier choc pétrolier en 1975. L'idée, c'est de réunir les pays les plus riches de l'époque pour imaginer une réaction commune à la crise. On y trouve la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon. Aujourd'hui, au G7, on ne parle plus que d'économie, mais aussi de santé, d'environnement, de lutte contre le terrorisme et donc aussi de l'intelligence artificielle.
Et là, on avait sur la table.
Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les 27 étaient en train de négocier l'IA Act et ils n'étaient pas arrivés au bout. Il a donc fallu aller parlementer avec les autres du G7 au nom des 27 sans savoir encore sur quoi ceux-ci allaient se mettre d'accord.
Donc, on a effectivement, en quelques mois, dû accoucher de ce code de conduite. Avec des partenaires dont tous ont choisi de ne pas légiférer sur ces questions-là. Et donc vous arrivez avec une position qui est vue par les autres comme étant la position de quelqu'un qui va vouloir imposer un cadre. Donc arriver à projeter notre approche, sans faire de l'eurocentrisme et sans faire du postcolonialisme, ça demande à la fois des connaissances juridiques, de la résistance.
Je lui demande à quoi ça ressemble une pièce avec plein de négociateurs, japonais, canadiens, etc.
Vous allez être déçu parce que c'est pas vraiment glamour. Vous êtes devant votre écran d'ordinateur. Et donc vous avez des gens à différents fuseaux horaires. Le but du jeu, c'est d'éviter de se retrouver isolé. Celui qui dit non, le danger pour cette personne, c'est qu'on élève cette question-là au niveau politique et qu'ils doivent expliquer à son ministre, voire à son leader, pourquoi il est celui qui emmerde les autres. Et donc il faut qu'il ait vraiment une bonne raison de dire non. C'est aussi arriver à faire des alliances et donner à certains ce qu'ils veulent pour qu'eux soutiennent ce que vous voudriez pour résoudre votre problème et éviter d'être isolé. Aussi pour comprendre ce que vous ne pouvez pas demander. Ça ne sert à rien de dire « il faut une loi sur l'intelligence artificielle, une loi que je peux se défendre devant un juge, devant votre juridiction ». Si vous dites ça, c'est fini. Il n'y aura jamais cette loi-là aux États-Unis ou au Japon.
Ça doit être difficile de négocier autour d'un écran parce que quand même, ces moments où on va aller à la machine à café et dire « attends, mais tu disais ça tout à l'heure, est-ce que tu es sûr qu'on ne peut pas revenir dessus ou... ?»
La machine à café, c'est WhatsApp. Si vous avez des alliés autour de la table, même virtuels, vous allez pouvoir, par WhatsApp, leur dire ben, « t'as vu, il a dit ça, mais je pense que là-dessus, on peut le corriger. » Nous, Union européenne, on est dans une situation d'avantage parce qu'au G7, on va avoir l'Allemagne, l'Italie, on va avoir la France... plus nous, donc ça fait 4 sur 8. Et donc les États-Unis ne sont qu'un. Le Japon n'est qu'un, le Canada ou les Britanniques ne sont qu'un. On va pouvoir finalement en live se coordonner pour rattraper le coup si quelqu'un a oublié de dire quelque chose, critiquer une position sans pour autant avoir à intervenir de nouveau. Tous les fondamentaux de notre AI Act, ils ont été entérinés au niveau international.
Parmi les clauses dont Fabien Delcros est satisfait, il y a l'approche par le risque. Plus les activités sont risquées, me dit-il, plus il faut un encadrement de l'IA. Et aussi une obligation des entreprises, en cas de problème, de révéler les algorithmes. C'est comme les boîtes noires dans les avions, dit-il. En cas d'accident, il faut partager les informations, même avec les concurrents. L'intérêt supérieur est en jeu. Fabien est assez optimiste. Il dit « la partie n'est pas perdue ». D'ailleurs, en ce moment, il recrute. Ils cherchent du monde pour rejoindre leur nouveau AI Office, bureau de l'intelligence artificielle.
Avec la mise en œuvre de la loi sur l'intelligence artificielle, le Parlement européen nous a dit « Ok, vous êtes gentil avec votre nouvelle loi, mais c'est tellement important qu'il faut pouvoir recruter. Est-ce que votre loi prévoit que la Commission va avoir une fonction de contrôle dans la mise en œuvre ?»
Il y a une dame qui frappe à la porte.
Qui n'ose pas frapper à la porte.
Qui n'ose pas frapper à la porte.
Je pense qu'on a piqué une
salle. La salle, en fait, était réservée.
Je
lui demande ce qu'ils ont prévu. Un entretien d'embauche, justement. Elle a un énorme seau de café, donc je pense que ça risque de durer un petit moment.
C'est possible.
Voilà, merci Fabien. Merci Fabienne. Wow. Merci Caroline. À mardi prochain.